Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Avant de vous donner les toutes dernières infos, notre invité du jour aura la chance de vivre cette expérience folle des Jeux à Paris cet été. Et Timothée Vergiat, tout juste qualifié pour les JO avec l'équipe de France de basket 3-3, est notre invité aujourd'hui. Bonjour Timothée.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Félicitations déjà à vous. On va rappeler que les Bleus ont obtenu leur qualification grâce à leur victoire en demi-finale du tournoi de qualification olympique face à la Mongolie. Les trois premiers du tournoi obtenaient leur ticket. Victoire sur le fil 21-20 grâce à votre panier de la victoire, Timothée. Racontez-nous ce tir et le suspense qui s'en est suivi.
Non, mon tir... C'est un peu le tir que tu t'imagines quand t'es enfant et que t'es dans ton jardin et que dans ta tête tu te dis 3, 2, 1 et que tu tires et que tu t'imagines des scénarios de fou. C'est ce que j'imaginais depuis quelques mois. On y pensait tous à se qualifier et tu te fais toujours des scénarios plus ou moins rocambolesques. Et là, c'était le meilleur scénario possible. Je récupère la balle, il doit rester 5 secondes de possession. Je venais juste de mettre un panier à 2 points juste avant et quand je reçois la balle, je me dis voilà, il faut tenter pour la victoire quoi. Et je sais que mon défenseur va sauter, donc je fais une petite feinte et je tire et donc derrière je marque et là bah c'est la joie même.
Ouais.
Au début c'est la joie et après donc on commence à se congratuler, à crier dans tous les sens et là les arbitres sifflent. Et on se regarde un peu tous.
Oui, parce qu'on va rappeler que les arbitres, évidemment, regardent si votre pied n'est pas sur la ligne au moment du tir et que donc ce soit bien un tir à 2 points qui vous offre à ce moment-là la victoire puisque vous atteignez les 21 points.
Oui, voilà, exactement. Donc là, il se passe, on va dire, je sais même pas combien de temps ça a duré en vrai, ça a dû durer 30 secondes, mais c'était super long. Les arbitres vont voir la vidéo, on voit sur l'écran géant l'image. Quand je vois l'écran géant, je me dis que c'est bon.
Parce que vous, après, sur le coup, vous êtes sûr que c'est un 2 points ou vous avez un petit doute quand même?
Non, pas du tout. Je suis pas du tout sûr. dans le feu d'action, honnêtement, je savais pas. Et après, je vois. En plus, on voit qu'ils zooment. Ils zooment beaucoup sur l'action, sur mon pied. J'ai plutôt des petits pieds pour un basketteur. Je fais du 44, donc ça a peut-être aidé. Parce que même les coachs disaient restez concentrés au cas où, mais je pense que ça aurait été impossible de reprendre derrière si c'était qu'à un point. Et là, au moment où ils annoncent que c'est vraiment un 2 points, là c'est l'explosion. On saute dessus avec le staff, entre les joueurs. Ça a mis une certaine dramaturgie dans le truc, mais ça amplifie encore plus la joie après.
Ouais, on a senti beaucoup d'émotions de la part de tout le monde après le match, des joueurs évidemment, mais le staff aussi. C'est un vrai accomplissement aussi pour vous, pour cette équipe, cette qualification pour les Jeux à Paris.
Oui, en fait, il faut savoir qu'on avait vraiment une très grosse pression. C'était la dernière chance pour le 3-3 français. C'était le dernier sport olympique, dernier sport collectif qui n'était pas qualifié automatiquement. Ouais. C'était le seul. Sachant que la Fédé avait investi beaucoup sur le projet 2024, sur le 3-3, ça fait 2 ans qu'ils avaient mis beaucoup d'argent dessus. Donc il y avait de la pression pour nous les joueurs, pour la Fédé économiquement, pour le staff. Donc ça a vraiment été une libération de pouvoir y aller quoi.
Ça fait quoi, Timothée, d'être celui qui envoie pour la première fois de l'histoire l'équipe de France de basket 3-3 au JO? C'est pas mal sur un CV ça quand même.
Ouais, c'est pas mal. J'ai du mal à vraiment en prendre conscience. Et en fait, c'est quand je suis revenu en France que j'ai vu tous mes amis, la famille. En fait, chaque fois que je croise quelqu'un, il m'en parle. Donc là, c'est vraiment là où j'ai vu la portée de ce tir. Et c'est vrai que c'est l'intitulé, il est magnifique. Envoyer l'équipe de France aux Jeux Olympiques pour la première fois de l'histoire, c'est quelque chose de grand. Je vous mens pas que je regarde la vidéo
en boucle
encore tous les jours et que ça me fait toujours des frissons. Donc,
je pense que vous avez donné beaucoup de frissons à beaucoup de gens en voyant cette vidéo.
Ouais, c'est un peu ça dont je suis le plus, fier, c'est qu'à chaque fois on parle, il y a des gens qui m'ont dit on a pleuré, il y en a qui m'ont dit on a fait casser la télé, il y en a qui m'ont dit voilà, qui ont sauté de joie, qui ont réveillé les voisins. À chaque fois on me dit des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui. Je pense que ça devait être un match qui était vraiment. C'est pour ça qu'on regarde du sport en fait, quand ça se finit bien, la dramaturgie comme ça.
Ah bah oui.
C'est le moment où on se rappelle, sachant qu'il y a eu le quart de finale où c'était pareil juste avant.
Mais j'allais vous en parler hein, justement de ce parcours des Bleus dans ce tournoi de qualification olympique. Ça avait été difficile, vous l'avez dit, en quart contre l'Allemagne avec une victoire au buzzer cette fois-ci. Et là encore face à la Mongolie, hein, vous étiez globalement dominé dans ce match, mais vous parvenez quand même à vous imposer avec cette dramaturgie dont vous parlez. C'est le caractère aussi de votre équipe qui parle sur ces matchs-là si difficiles ?
C'est vrai que si on combine les deux matchs, je pense qu'on est devant peut-être une minute sur les deux matchs en tout. Et non, honnêtement, c'est peut-être notre force là aussi, c'est qu'on est resté, on était derrière, on n'a jamais trop paniqué. Après, je vais pas vous mentir, hein, contre la Mongolie, quand on perdait de 4 points à 18-14, j'étais pas serein non plus. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais paniqué et au final, il faut toujours un petit brin de réussite aussi. On a eu ce petit brin de réussite avec le tir en quart, avec la planche, qui lui, pour moi, est le vrai tir vraiment qui nous sauve. Parce qu'en quart, si tu perds, bah, t'as plus de chance, c'est terminé. Mmh. Alors que moi, encore, on avait la troisième place peut-être pour aller chercher. Mmh. Mais non, ouais, niveau caractère, on a été bien présents et même, ouais. Un autre mot avec un C, mais je dirais pas à l'antenne.
Ouais, mais je pense qu'on l'a. Timothée Verger est avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC, tout juste qualifié pour les JO avec l'équipe de France de basket 3-3. On va rappeler quand même que c'est pas rien que ce soit vous qui mettiez ce tir-là qui qualifie les Bleus, parce que vous avez été élu meilleur joueur de ce tournoi de qualification olympique, Timothée.
Oui. Après, donc ça, ça fait toujours plaisir. Après, honnêtement, sur ce tournoi-là. Et encore plus que sur d'autres avec l'équipe de France, là c'était vraiment qualifier le pays, l'enjeu était vraiment très très grand, la pression de résultat, on a senti aussi dans l'équipe que même s'il y avait des joueurs qui étaient moins bien à certains matchs, le plus important c'était de gagner parce qu'on avait vraiment un but commun là, entre le staff, la fédé, les joueurs. Après ça, forcément ça fait vraiment plaisir d'être reconnu et d'avoir su de MVP.
Cette dramaturgie dont on parle avec ces fins de match complètement folles, on a l'impression que c'est propre aussi à ce basket 3-3, ce suspense jusqu'au bout, tout ce qui se joue sur un tir, c'est ce qui vous plaît aussi dans cette discipline-là ?
Oui, c'est complètement ce qui me plaît. On peut passer des émotions à pleurer de parce qu'on a gagné, à pleurer parce qu'on a perdu. Et puis ça dépend d'un tir, d'un petit truc. Il se passe toujours beaucoup de choses au 3-3. C'est pour ça que les gens aiment aussi. Là, honnêtement, le tournoi, ça a été la meilleure pub possible pour le 3-3. Parce que tous les matchs ont été super serrés avec des scénarios de fou. Après, la FIBA communique très très bien dessus aussi. Parce qu'il y a toujours des vidéos qui sortent directement juste après les matchs. Je pense vraiment que ça peut être un sport au JO qui peut faire sensation parce que c'est dehors, c'est urbain, il y a de la musique, c'est vraiment bonne ambiance. Et puis il y a des émotions décuplées par rapport au 55 par exemple.
Que vous connaissez bien, parce qu'on va le rappeler quand même, vous êtes meneur à Blois en Betclic Elite à côté. Comment vous en êtes venu du coup à faire une pige avec le 3-3 ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? C'est votre club qui vous autorise, qui vous libère à être avec l'équipe de France de 3-3 ?
Oui, c'est un peu compliqué parce que contractuellement on est avec notre club de 5-5 et c'est deux disciplines qui tendent à se détacher un peu, le 3-3 son propre calendrier, le 5-5 aussi, le 3-3 essaye de professionnaliser le plus de joueurs possible, que maintenant les joueurs fassent que ça, que du 3-3, donc c'est vrai que c'est un peu contraignant des fois pour les clubs, donc mon club, la DA Blois, a été compatissant en me laissant partir. Après, on n'avait plus rien à jouer non plus en championnat, nous. Mais c'est vrai que ça peut poser des questions, des fois, au niveau contractuellement, de libérer les joueurs, même si c'est l'équipe de France et que l'équipe de France, ça ne se refuse pas. Bon, c'est vrai que ça empiète un peu, des fois.
Rassurez-nous quand même, cet été, vous allez être libérés pour les disputer, ces JO à Paris. Vous avez eu tant de mal à qualifier l'équipe de France. Vous allez y aller à la place de la Concorde ?
Ah non, oui, bah ça, c'est même pas négociable. ça, je pense que voilà, tout, faut pas être, ils sont pas bêtes non plus. Ils savent très bien que ça fait parler d'eux aussi. Donc, non, pour les JO, il n'y aura aucun souci. Il n'y aura vraiment aucun souci.
Ouais, je pense que vous voyez déjà là sur la place de la Concorde devant un public en feu pour essayer d'aller chercher ce titre olympique. Je pense que là, si vous passez le panier en boucle face à la Mongolie, vous êtes aussi projeté sur ce qui vous attend cet été à Paris, non ?
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Même si on n'est pas encore sûr à 100% d'y être, parce qu'il y aura, il y aura encore des préparations, une sélection aussi qui peut changer. Mais en tout cas, j'y pense tout le temps. Là maintenant. Autant avant, je pensais vraiment qu'au tournoi et à se qualifier. Je pensais pas du tout aux JO. Mmh. Là, maintenant, je commence à y penser. J'ai envie de faire la cérémonie d'ouverture. Quand on a atterri en France, j'ai l'impression de voir que des panneaux parlant de ça, alors qu'avant, peut-être, je les remarquais pas, tu vois. Donc, maintenant, oui, on m'en parlait tous les jours. Donc, forcément, ça va être dans ma tête. Et quand je vois le lieu où ça va être fantastique.
Ça va être un très très beau spectacle et on sera évidemment au rendez-vous. Merci beaucoup Timothée d'avoir été avec nous. Félicitations encore et on espère évidemment vous retrouver cet été au JO sur RMC pour nous faire vivre de grandes émotions encore. Merci Timothée.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Et 14h41 sur RMC, l'Intégral Sport revient tout de suite. La suite de En route pour Paris 2024, votre magazine olympique avec les toutes dernières infos avec Julien Richard. C'est juste après ça, tout de suite sur RMC. On est toujours au cœur de votre magazine olympique dans l'Intégral Sport sur AMC. Place maintenant à l'actualité avec Julien Richard. Salut Julien.
Salut Flora. Bonjour à toutes et à tous.
Et c'est tout chaud. C'était cette nuit, Léon Marchand, déjà très rapide.
À 3 semaines des sélections olympiques à Chartres et alors qu'il descend à peine des montagnes du Colorado, il a effectué un traditionnel gros stage bien copieux en altitude avec son entraîneur Bob Bowman. Eh bien, Léon Marchand a brillé en Californie dans le meeting d'Irvine. Première fois sous la minute au 100 mètres bras, c'est une barrière mythique, 59 secondes et 6 centièmes. Deuxième performeur français de l'histoire. Il se rapproche du vieux record de France, Duc Dubosc, qui date de 2009. Ce 100 mètres bras, c'est pas à son programme hein, pour les jeux en individuel, mais ça confirme une excellente nouvelle pour le relais 4x100 mètres 4 nages français. Et puis sur sa course, le 200 mètres 4 nages, eh bien cette nuit, deuxième perf mondiale de l'année derrière le chinois champion olympique en titre Wang Shun. 1 minute 55 secondes 74 centièmes, quatrième chrono de sa carrière à ce stade de la saison et de la préparation. Bah, c'est vraiment une très très grosse performance. Chartres, les championnats de France, donc les sélections olympiques, ça sera du 16 au 21 juin pour la natation française. Passage obligé pour se qualifier à Paris.
Oui, oui, il sera là, Léon Marchand, évidemment.
Et il faut qu'il se qualifie à Chartres, comme tous les autres nageurs français.
Oui, oui, mais voilà. Donc il va se qualifier facilement, évidemment. On reste dans l'eau. Julien, grand bleu dans la grande bleue pour les bleus, ça s'invente
c'est
pas.
Beau ce
ça,
que tu c'est nous
écrit
dis,
par genre... Julien Richard d'une main de maître.
C'est très joli. Les nageurs français d'eau libre ont marqué leur territoire hier à 77 jours de leur épreuve olympique dans la Seine avec un doublé sur la deuxième étape de Coupe du Monde. C'était à Golfo Aranci en Sardaigne. Marc-Antoine Olivier s'impose devant Logan Fontaine. Les deux Français ont dépassé dans les derniers mètres le champion du monde en titre, le Hongrois Christophe Razovski. Deuxième à Doha, justement derrière ce Hongrois, eh bien Marc-Antoine Olivier a cette fois touché devant.
C'est important parce que ça marque le coup, même si on n'était pas préparé et qu'on sait que le niveau coup du monde ne va être rien à voir par rapport au championnat d'Europe ou encore au jeu, mais c'est important de marquer le coup, montrer qu'on est présent. On est là, on bosse bien et de réécouter cette Marseillaise, déjà ça fait du bien. Puis on a envie de l'entendre chez nous maintenant, à Paris.
Et la Marseillaise à Paris, pour les garçons, ce serait le 9 août, pour les filles, ce sera le 8. La course, belle cinquième place hein, chez les filles de Caroline Jouis sur cette épreuve donc en Sardaigne. En revanche, mauvaise nouvelle pour Océane Cassignol, qui elle a dû abandonner, elle a une douleur à l'épaule droite, et elle va devoir rentrer en France, passer des examens ce lundi pour trouver une solution et soigner ce petit bobo. Toujours en Sardaigne, c'était the place to be, je sais pas comment on dit en italien.
Donne envie, hein.
Une Marseillaise et le plein de confiance, cette fois pour les Françaises en triathlon. Victoire il y a quelques minutes de Cassandre Beaugrand sur la deuxième étape des World Series à Cagliari. C'est une performance qui lui permet de valider sa qualification pour le triathlon olympique cet été. Emma Lombardi termine au pied du podium. Une quatrième place qui lui permet de prendre la tête du classement général de ces World Series. Et puis 26e place pour Léonie Perriot qui s'était imposée sur la première étape à Yokohama il y a 2 semaines de cela. Ces trois-là, donc Cassandre Beaugrand, Emma Lombardi et Léonie Perriot, devraient former le trio olympique à Paris cet été. La sélection sera annoncée le 5 juin prochain.
On suit aussi la course au point pour les Jeux Olympiques en tennis de table entre Alexis Lebrun et Simon Gauzy.
Oui, course à distance pour décrocher le deuxième ticket individuel du tournoi olympique et donc accompagner Félix Lebrun. Le grand frère Alexis est en ce moment en Chine, tournoi contender de Taïwan. En demi-finale, il y a quelques minutes là aussi, il n'a pas eu de mal à se débarrasser du coréen Sang-soo Lee. Victoire 3-0, il disputera la finale peut-être face au numéro 4 mondial. Pourquoi c'est un parcours très important et ce qui est en train de se passer est précieux pour Alexis Lebrun dans la course à la qualif. Eh bien, il a 200 points de retard au classement sur Simon Gauzy. Et avec cette victoire-là, il va lui en reprendre 140. Et s'il remporte le tournoi, il en prendra 400. Donc, il repassera devant. Il restera une seule grosse compétition pour prendre des points dans cette lutte pour la place, le ticket, le deuxième ticket individuel au jeu.
C'est le feuilleton sportif aussi de cet avant-JO de Paris. On est avec Kevin Mayer cette fois-ci qui va tenter les minima olympiques.
Et on sait
où il va le faire surtout. Ouais.
A priori, un dieu du stade à Rome, ça se tient. Le double médaillé d'argent olympique du décathlon a obtenu une invitation, donc une wild card, pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Rome du 7 au 12 juin prochain. Alors pour le moment, il n'a pas communiqué sur sa présence à Rome, mais ce serait désormais l'option privilégiée pour réussir ces fameux 8460 points sur le décathlon pour participer au JO. C'est une invitation de la Fédération européenne, donc il prend la place de personne dans le quota de la France. Et puis c'est un contexte qui convient parfaitement au recordman du monde, une vraie compétition avec de l'enjeu. Il avait tenté une première fois, souvenez-vous, en mars à San Diego aux États-Unis, petite compétition universitaire, mais il avait stoppé son effort après la hauteur en raison d'une douleur à la cuisse.
Il nous fait peur quand même, Kevin Mayer, hein, quant à sa présence cet été à Paris. Une dernière médaille hier au mondiaux de judo à Abu Dhabi.
Oui, médaille d'argent dans la compétition par équipe mixte, défaite en finale, on va dire comme d'habitude, contre le Japon. L'équipe de France a vécu des mondiaux, on va dire en clair-obscur, clair avec les filles, plus sombre avec les garçons. Morgane Maury, qui était notre envoyé spécial à Abu Dhabi.
La France termine sixième au rang des nations avec 5 médailles, dont un titre. Pas de panique, la bonne nouvelle, ce sont les 4 médailles des 4 sélectionnés olympiques. Christophe Massina, patron de l'équipe fille, bilan prometteur à 2 mois des JO.
À 2 mois des Jeux, je trouve que déjà le fait qu'elle soit sur la boîte, c'est plutôt rassurant. On a emmagasiné plein d'infos, maintenant on va prendre un peu de temps de se poser. Ça va nous permettre de pouvoir recharger les batteries et de repartir dans cette préparation terminale avec justement plein d'informations intéressantes.
En bonus, leur mondial de Margot Pinault à 30 ans, toutes les filles seront têtes de série aux JO, c'est un plus. Amandine Bouchard, Clarisse Agbeninou, Marie-Ève Gaillet, Madeleine Malonga, toutes sur un podium. Alors oui, sans or, mais l'appétit bien aiguisé de ces filles pour les JO, écoutez-les.
Surtout essayer d'entendre une Marseillaise et que j'ai mon 4 à l'INSEP, parce que ça, j'y tire vraiment. Donc c'est pas grave, dans 2 mois, j'ai encore une opportunité de pouvoir l'avoir, ce 4, donc il va falloir que je me bouge un peu le derrière.
Ça me conforte et je me dis, mais si je suis comme ça dans 2 mois, avec la concentration des Jeux Olympiques, mais en fait, je serai intouchable.
Si c'est l'argent qui va m'amener à l'or, il n'y a pas de souci.
J'ai fait avec les 100% de ce que j'avais et... Au final, je suis quand même sur le podium. Donc, et puis en même temps, c'est dans 2 mois, les Jeux, là. Donc j'espère que c'est de bonne augure pour la suite.
Les garçons ne sont pas montés sur le moindre podium. Chez les 5 sélectionnés olympiques, aucun n'a remporté plus de 2 combats. Alors oui, Teddy Riner n'est pas là. Luca Meraidze, numéro 3 mondial des 60 kilos, revenait de blessure. Baptiste Leroy, responsable des masculins.
Plutôt moyen que raté, parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont la tête aux Jeux Olympiques. Ils avaient envie de gagner, mais ils ont la tête et on a la tête aux Jeux Olympiques, même ne serait-ce que dans la préparation. La planification, elle est faite pour essayer, si elle est bien faite, d'arriver en forme au mois de juillet et pas forcément au mois de mai, puisque on avait le quota, on jouait quasi plus de ranking list, donc il n'est pas raté.
Un championnat à 0 médaille, ça arrive, il reste 2 mois pour rattraper l'élite. Le capitaine Riner va revenir pour Paris. C'est au Grand Palais éphémère, lieu du judo pendant les JO, qu'on aura la vérité de la saison.
L'info de la semaine aussi, Julien, c'est le soulagement pour Isaora Tibus, blanchie après son contrôle antidopage anormal en janvier dernier.
Elle était suspendue provisoirement depuis le 8 février et elle a enfin pu reprendre le chemin de l'entraînement, retrouver ses coéquipières de l'équipe de France. Isaora Tibus a obtenu gain de cause, championne du monde 2022 de fleuret. Elle a réussi à prouver que la présence d'ostarine, donc substance interdite dans ce contrôle antidopage anormal, était due à une contamination par fluide corporel avec son compagnon Racine Boden, qui avait pris, sans lui dire, un complément alimentaire interdit. Le tribunal disciplinaire antidopage de la Fédération internationale d'escrime n'a pas prononcé donc de sanctions. Un immense soulagement et un grand bonheur, s'est réjoui Isaora Tibus dans un communiqué. Pour la Fédération française aussi, c'est un soulagement. Et il faut maintenant se tourner vers les Jeux dans moins de 2 mois, le manager du fleuret féminin, Yann Détienne.
On fera tout pour qu'elle soit au championnat d'Europe et si elle est en état de le faire, elle le fera parce que pour arriver prête aux Jeux Olympiques, il faut qu'elle se remette en rythme et en rythme également des oppositions en compétition. Elle sera dans la sélection des championnats d'Europe à partir du moment où elle était blanchie, était garantie pour les Jeux. Alors bien entendu, ça va être une course contre la montre, hein. Il va y avoir un temps de réathlétisation, mais je doute pas une seconde qu'elle soit en capacité d'être prête pour les Jeux.
Voilà, les championnats d'Europe hein, dont parlait Yann Détienne, c'est à partir du 18 juin prochain. Isabelle Horatibus, 32 ans. Elle n'a pas repris l'entraînement d'ailleurs avec Racing Boden, son compagnon américain qui était dans le staff français à la base. Elle préparera les JO avec son maître d'armes italien pour les leçons individuelles et les séances collectives à l'INSEP. L'escrime, où décidément cette saison olympique, ça grince de partout en coulisses avec cette fois le départ du responsable du sabre masculin à moins de 2 mois des Jeux. Alain Kouakou a claqué la porte de son poste d'entraîneur donc du sabre. Il a expliqué qu'il démissionnait car ses choix n'ont pas été respectés, remplacé par son adjoint Julien Médard. Le trio de titulaires du sabre sont connus et connus pour les Jeux Bolladé à Piti, Maxime Pierfanti et Sébastien Patrice. Sans transition peut-être, mais promis, sans transition, attention les oreilles. Ça, c'est Lucie Anastasiou, vice-championne d'Europe du skit à Lonato en Italie. C'est du baltrap, hein, le skit, vous voyez ce que c'est, au bord du lac de Garde. La tireuse française a été battue hier en finale par une pointure, l'italienne championne olympique de Rio et vice-championne de Tokyo, Diana Baccozzi. Lucie Anastasiou décroche surtout avec cette médaille d'argent, eh bien, le quota olympique pour les JO de Paris.
Les Jeux de Paris, il insiste, il veut les faire.
Qui c'est ce il? Eh bien, c'est Kylian
Mbappé.
Ouais, qui a redit jeudi son envie donc de participer à la fête olympique cet été. L'attaquant parisien qui devrait disputer ce soir son dernier match avec le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France face à Lyon était jeudi à la Philharmonie de Paris pour un événement avec son association IBKM.
Je pense que j'ai plus besoin de dire mon intention. Tout le monde la connaît. Je pense qu'il faut laisser faire les choses. Je suis dans un moment où je laisse faire les choses et. Après, comme j'ai dit, je suis à un âge où peu importe la décision, je serai content, mais c'est sûr que les Jeux à Paris, c'est spécial. Quand je saurai, j'en parlerai, mais moi, j'en sais rien. Comme j'ai dit, ça dépend pas que de moi. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est vraiment finir la saison bien et quand on aura un message à me faire passer, je serai là pour le recevoir.
Et oui, ça dépend pas que de lui, Kiki. On le rappelle, le tournoi olympique ne fait pas partie des fenêtres internationales de la FIFA, donc bah, les clubs ont le choix de libérer ou pas leurs joueurs. Mais quel club, on ne sait pas. Le Real Madrid a déjà indiqué qu'il ne laisserait pas passer à partir ses internationaux pour les JO. Mais cette semaine, quand même, le président du futur club de Mbappé, donc Florentino Pérez, était à Paris pour les 120 ans de la FIFA et il a déjeuné avec Emmanuel Macron. Il y avait également Thierry Henry qui n'était pas très loin. Tiens, à la table pour essayer peut-être de le convaincre.
Thierry Henry, pas sûr que ça fonctionne. À la tête de la sélection olympique. Merci beaucoup, Julien, pour toute l'actualité olympique.
Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en 15, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.